des monstres en pagaille et un réalisateur qui se fait rafaler. On n'est même pas à la moitié de la semaine et le cinéma est déjà épuisant.
Allez du cinéma ! Allez du cinéma, bonjour !
Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Vous en avez marre du MCU, et ben voilà le PCU, dédié aux films d'horreur tirés des contes de notre enfance. C'est pas une blague, ça va exister pour de vrai, Winnie a fait des petits, et c'est déprimant à souhait. À côté de ça, les Oscars, c'était il y a plus d'une semaine, mais le réalisateur Jonathan Glazer continue de prendre tarif pour son discours engagé sur scène. Qu'a-t-il dit pour mériter un tel backlash? Après, dans la version audio, on fera un bilan du box-office de la semaine, et dans la version vidéo, les sorties en salle à ne pas rater. Il y aura aussi la question du public et du cinéma horrifico-fantastico-québécois avec Vampire Humaniste qui débarque en salle en France. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui le regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif aux chaque plateforme. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux, que ce soit sur Spotify, sur iTunes ou même sur YouTube, à cliquer sur s'abonner, à mettre la cloche, tout ça, vous connaissez. C'est la première émission test où on sort l'émission sur deux horaires différentes, à 7h du matin dans son format podcast et à midi sur YouTube. On va voir si ça fonctionne, si ça prend et tout. On va faire plusieurs émissions test comme ça et puis on fera un bilan peut-être lundi ou mercredi prochain. On va se faire une semaine de test pour voir. Ça reste quand même trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma, à 7h du matin en podcast donc et à midi sur YouTube. C'est parti pour les sujets du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Il y a des sujets qui reviennent régulièrement dans l'émission, et ça m'étonne, moi le premier, vu à quel point je les méprise, mais allons-y, soyons fous. Je vous ai parlé déjà mille fois de Winnie the Pooh Blood and Honey, un film d'horreur opportuniste basé sur le nounours de notre enfance tombé dans le domaine public. C'était un très mauvais film, personne n'est étonné, mais comme je le dis à chaque fois, c'est pas un film mauvais genre mauvais rigolo, non, c'est un film genre mauvais... Mauvais, laissez-moi tranquille. Et si je vous disais que ce film n'était en fait que la première pierre d'un multiverse cinématographique composé de tous les récits de votre enfance réunis ensemble dans le sang et dans les meurtres? Ouais, ça s'appelle le Pooniverse. C'est pas une blague. Je vais expliquer. De base, l'idée de prendre des récits pour enfants et de vouloir les transformer en cinéma pour adultes, en cinéma horrifique, je trouve ça plutôt intéressant. Je suis persuadé qu'on peut faire de très bons films à partir de ce principe-là. Le souci, c'est que tous les films dont je vous parle ici sont produits par une boîte qui s'appelle Jagged Edge Pictures, une boîte de production anglaise spécialisée dans les films d'horreur nuls à tout petit budget. Faut aller sur leur site internet, faut voir les films qu'ils ont produits dans le passé. Oh, c'est un paquet de chefs-d'œuvre, hein. Oh, clairement. Alors, il y a eu Crocodile Vengeance, voilà, avec son crocodile en 3D moche. Il y a eu Dragon Fury et son dragon en 3D moche. Il y a eu Jurassic Valley avec ses dinosaures pendant la Troisième Guerre mondiale. Ah non, mais c'est que des projets formidables de ce genre. Soyons pas délus, ils savent très bien ce qu'ils font. Leur but, c'est de chier de la pellicule. Enfin, de la pellicule de chier, un paquet de films absolument nuls avec des sujets ultra racoleurs et sous-budgétés, histoire d'avoir un énorme stock facile à vendre et absolument pas de faire de la qualité. Et c'est logique que ce soit ces gens-là qui sont allés taper dans les récits de notre enfance pour avoir le sujet racoleur, pour le pervertir, parce que de toute manière, c'est tombé dans le domaine public, on peut faire ce qu'on veut avec. Mais du coup, c'est super rassurant. Pour vous dire à quel point ils sont nuls, moi, je suis allé regarder tous les trailers de films sur leur site internet. Hein. J'ai vu le trailer d'un film sorti en 2022 qui s'appelle Krampus The Return. C'est un démon de Noël qui tue des gens. Oui, cherchez pas, d'accord. Bah, la bande-annonce qu'ils ont mis sur YouTube, elle a pas de musique à la fin. Parce qu'en fait, ils avaient pas les droits de leur propre musique qu'ils ont mis dans la bande-annonce de leur propre film. Et du coup, ils ont été obligés, avec le bot YouTube, de supprimer leur musique. C'est dégueulasse. C'est pas possible. Ils sont nuls. Et donc, ils ont fait Winnie the Pooh, Blood and Honey. C'est moche, c'est mal joué, c'est nul. Et il y a la suite qui sort la semaine prochaine aux États-Unis. J'ai vu qu'il sort 3 jours ici en salle au Québec. Il faut que je me retienne. Vraiment, j'ai trop envie d'y aller. Mais j'aime beaucoup trop me faire du mal au cinéma. C'est un problème que j'ai. Et donc, dans la foulée de ce film, ils ont annoncé, on fait pas juste une suite à Winnie. Non, on va créer tout notre propre MCU du film d'horreur pourri basé sur des contes pour enfants. Comme je disais, ça s'appelle donc le Pooniverse. Oui, vraiment, c'est le nom. Et les premières images des prochains films seront révélées dans la scène post-générique de Winnie the Pooh, deuxième volet. Oui, eux aussi, ils font des scènes post-génériques. Et vu qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, eh bien, on parle de 4 films supplémentaires qui vont sortir d'ici l'année prochaine. Rien que ça. Je vous cite les différents films. Alors tout d'abord, il y a Bambi The Reckoning, qui est réalisé par Dan Allen. Alors Dan Allen, entre autres, il avait réalisé le film The Mummy Reborn, qui parle d'une bande de jeunes qui sont attaqués par une momie dans leur salon, parce que bah, ça coûtait moins cher que d'aller en Égypte. L'idée est simple, dans Bambi The Reckoning, Bing, on a tué la maman de Bambi, et donc Bambi, il est pas content, il se transforme en machine à bouffer de l'humain, et ouais, bon, le principe est super logique. Ensuite, il y a Peter Pan Neverland Nightmare, qui est réalisé par Scott Chambers. Alors, Scott Chambers, si vous allez sur sa page IMDb, vous allez découvrir que juste sur l'année 2021, le bonhomme a sorti 11 films. 11 films en un an. J'ai retenu le nom des meilleurs, hein. Il y a Cannibal Troll, il y a Dragon Fury, voilà, dont je vous parlais tout à l'heure, ou encore il y a The Gardener, avec le sosie officiel hongrois de Charles Bronson. Est-ce qu'on n'est pas bien là ? Et au-delà de tout ça, s'il réalise autant de films, c'est surtout qu'il met son grain de sable dans tous les films de Jacket Pictures. Parce qu'en fait, c'est lui le créateur de Jacket Pictures. Il a 33 ans et c'est le génie du mal originel. C'est-à-dire que si tu regardes sa page IMDb, il produit des films depuis 2017 et en 7 ans, il a produit 98 films. 98 films en 7 ans. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens, tout seul avec tes petits bras. C'est donc exactement ce que vous pensez, hein. C'est Peter Pan version hardcore. C'est en tournage actuellement. Et si vous voulez une image du film, eh ben, allez sur Jacket Pictures, le site officiel de la boîte de prod, et vous trouverez une image générée par intelligence artificielle. Bah oui, parce que, pourquoi se faire chier, en fait? Plus tu creuses, plus c'est goldé, ce truc, c'est formidable. Ensuite, il y a Pinocchio Unstrung. Alors là, on a ni casting ni équipe, hein. On sait juste que le film se tourne cet été et va sortir fin 2024. Ouais, c'est du rapide. Tout ce qu'on a, c'est un dessin préparatoire qui est sûrement plus beau que 99% du film final qu'on va se ramasser. Et après Pinocchio, il y aura le film pour tous les guider et dans les ténèbres les lier. Pooniverse Monsters Assemble, prévu pour 2025, qui sera réalisé par Rhys Frake-Waterfield, c'est lui qui a fait les deux films Winnie l'ourson, et il réunira donc tous les personnages cités, mais aussi La Belle au bois dormant ou encore Le Chapelier fou. Le producteur Scott Chambers nous annonce que ce sera un film avec un plus gros budget que les précédents, ça va pas être dur, et il promet que si vous regardez tous les films à venir, et vous aurez des indices à chaque fois sur les prochains films d'horreur. Voilà, 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 on fait quoi avec tout ça, nous ? Il y a un souci qui va se poser, c'est que je vais vraiment vous dire un truc du style « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Perso, je suis prêt à me sacrifier pour la cause. Je regarde plus de 400 films par an. J'ai le temps de regarder ce genre de merde. Alors, je peux le faire. Si vous voulez, je le fais. J'adore me faire du mal. Je tire autant de bonheur à regarder un très très grand film qu'à regarder une sombre merde dont je sors énervé, soit parce que le film est extrêmement mauvais, soit par le fait qu'il a eu des décisions de production catastrophiques. C'est pour ça que je continue d'aller voir les films du MCU au cinéma. Je sais que j'aime pas, mais j'y vais quand même. C'est mon petit côté BDSM cinéphile. Mais vous, ne le faites pas. Vraiment, je vous assure, ces films faits à l'arrache ne vous respectent pas. Ils sont juste là pour soutirer du pognon dans votre porte-monnaie en vous faisant croire que « Oh, c'est pas si pire !» Alors qu'en fait, si, c'est pire. Je vous tiendrai au courant, hein. Je vous dirai si celui-là, celui-là, il sent plus le caca ou moins le caca, je vous dirai ça. Mais vous méritez mieux que ces films-là. Alors que moi, je suis une poubelle. Voilà, je suis une poubelle à films nuls. Envoyez-moi vos merdes, j'adore. Je prendrai les coups pour vous, mais vraiment, vous méritez mieux que ça. Le cinéma d'horreur, en général, mérite mieux que ça. C'est juste moi qui vis dans un syndrome de Stockholm avec les films les plus possible. Si vous voulez des créatures fantastiques dans des films géniaux, attendez par exemple la fin de cette émission. Je fais la critique d'un film qui est formidable à ce niveau-là. Mais vraiment, vous méritez mieux que ces films. Je vous assure. Bon, je reviens. Faut que j'aille réserver ma place pour Winnie 2. Ouais, alors là, on va clairement changer de registre. Je vous préviens, ça va être carrément moins joyeux. À la dernière cérémonie des Oscars, le cinéaste Jonathan Glazer a reçu l'Oscar du meilleur film étranger pour son petit chef-d'œuvre qui est The Zone of Interest, la zone d'intérêt en français. Je vous ai déjà dit tout le bien que je pense du bonhomme, de tous les films qu'il a réalisés, même de ses courts-métrages, et notamment The Zone of Interest, que j'ai classé parmi le meilleur truc que j'ai vu l'année dernière. Vraiment, je vais pas me répéter là-dessus, c'est formidable, voyez-le si vous ne l'avez pas vu. Et Jonathan Glazer, ayant eu peu l'occasion de monter sur scène, et d'autant plus avec une telle exposition que lui donne celle proférée par les Oscars, quand il a débarqué sur scène, il a fait un discours on ne peut plus politique. Et en même temps, c'est pas étonnant. Je veux dire, vous avez vu The Zone of Interest ? Vous avez vu de quoi ça parle ? Vous attendiez à quoi ? Est-ce que le mec débarque sur scène et fasse « Merci papa, merci maman ?» Non, évidemment que ça allait pas se passer comme ça. Et histoire qu'on parte tous de la même base, je vais vous citer le discours qu'a prononcé Jonathan Glazer. Je le cite. « Les choix de ce film ont été faits pour nous refléter et nous confronter au présent. Non pas pour dire « Regardez ce qu'ils ont fait à l'époque », mais plutôt « Regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Notre film montre le pire de la déshumanisation. Elle a façonné notre passé et notre présent. En ce moment même, nous nous trouvons ici en tant qu'hommes qui refusent que leur judéité et l'Holocauste soient détournés pour une occupation qui a conduit à un conflit pour tant de personnes innocentes. Qu'il s'agisse des victimes du 7 octobre en Israël ou de l'attaque en cours à Gaza, toutes victimes de cette déshumanisation, comment résiste-t-on ? Alexandra, la fille qui brille dans le film comme dans la vie, a choisi de le faire. Je dédie ceci à sa mémoire et à sa résistance. Le discours est assez clair et même assez intransigeant avec son propos. Petit 1 de Zone of Interest traite de la mise en place de procédures systémiques afin de pouvoir déshumaniser l'ennemi et pouvoir le tuer à tour de bras. Petit 2, cette période de l'histoire et le fait d'être juif est actuellement utilisé par des gouvernements afin de servir des politiques affreuses. Petit 3, les victimes du 7 octobre comme celles de la bande de Gaza sont victimes de cette déshumanisation. Petit 4, il faut résister. Je pense qu'on peut pas faire plus clair et limpide comme discours. Un discours qui, en plus, n'oublie pas les deux côtés et qui est prononcé par une personne juive. Jonathan Glazer est juif. Oui, mais ça a pas plu à certaines personnes. Ce qui a pas plu, notamment, c'est le fait que le réalisateur dresse un parallèle entre ce qui se passait dans le régime allemand des années 40 et le régime actuel de Netanyahou. Un parallèle qui est extrêmement mal passé auprès de certains. Le premier à avoir réagi, c'est le réalisateur hongrois Laszlo Nemes, qui avait entre autres fait le film Le Fils de Saul, qui traitait aussi de cette période, et qui avait reçu le Grand Prix au Festival de Cannes en 2015. Laszlo Nemes a déclaré au Guardian que Zone of Interest était un film important cinématographiquement parlant, mais que son réalisateur aurait mieux fait de se taire au lieu de révéler qu'il n'a aucune compréhension de l'histoire. Il a même ajouté, je le cite, « Nous sommes dans une époque qui ne tolère pas seulement, mais encourage l'antisémitisme, et il n'aurait pas dû se reposer sur des points disséminés par une propagande ayant comme but d'éradiquer tous les juifs de la planète. » Bon, évidemment, la Zone MS s'est aussi pris un retour de bâton. Ça a raconté sur les réseaux à quel point c'était un gars horrible. Ça a cité des interviews de lui où il expliquait que, pour son film, il avait engagé pour faire les prisonniers des SDF qui l'étaient fiers d'avoir payé que quelques centimes. Voilà, ça a raconté ce genre de choses sur ce gars-là. Grosse ambiance, mais c'est pas fini. Il n'a pas été le seul à être énervé par ce discours. Et là, vient de débarquer une tribune américaine signée par plus de 500 personnes juives d'Hollywood pour attaquer les propos de Jonathan Glazer. Alors, je peux pas vous donner tous les noms, je vais évidemment pas citer les 500, mais à l'intérieur, il y a le réalisateur Eli Roth, il y a la productrice des films Spider-Man de Sony, Amy Pascal, il y a la comédienne Jennifer Jason Leigh, ou encore le producteur des premiers Tarantino, Lawrence Bender. Je vous ai mis en description le lien vers la tribune, mais en gros, la plus grosse critique qui est adressée, c'est le fait que Jonathan Glazer ait dressé un parallèle entre la politique du régime allemand des années 40 et la politique actuelle du gouvernement de Netanyahou. Il y est dit clairement dans la tribune, chaque mort à Gaza est tragique, mais Israël ne vise pas des civils, mais le Hamas. Et dès que le Hamas relâchera les otages et se rendra, alors la guerre pourra enfin s'arrêter. Et bon, on répond quoi à tout ça, nous, de notre côté? Moi, je réponds que je parle de cinéma. Et que, évidemment, notamment quand on parle du cas de The Zone of Interest, la réalité rattrape très vite la fiction, elle-même inspirée de la réalité. Et c'est quoi The Zone of Interest? Si on analyse le film, c'est quoi? C'est littéralement un film qui te raconte comment on met en place des systèmes procéduraux afin de massacrer à tour de bras sans réfléchir en fait que les gens qu'on tue, eh ben, c'est des êtres humains. C'est littéralement un film qui te place du point de vue de ceux qui vivent une petite vie joyeuse et tranquille à côté du camp où se passent tous les massacres. Ce qui m'étonne donc le plus dans cette affaire, c'est que des gens soient particulièrement choqués par le discours de Jonathan Glazer, alors que tout ce qu'il a dit dans son discours, c'était déjà présent dans son film. Alors vous pouvez le tordre dans tous les sens, hein, dire que vous l'avez pris autrement, mais il te dit littéralement que c'est ça qu'il a voulu insuffler à The Zone of Interest. Pourquoi ça te dérangeait pas avant et maintenant ça te dérange? Et je vous avoue que je suis un peu perdu quand je vois Jonathan Glazer, cinéaste juif qui vient de faire un film sur la mise en place de ces dynamiques monstrueuses, être traité d'antisémite. Je comprends pas. Mais vraiment, je suis pas là dans un jeu, dans une posture ou quoi. Vraiment, quand je vois ça, je ne comprends pas. Alors, il faut pas dire non plus que tous l'accusent. Il y a aussi l'hebdomadaire américain de gauche The Nation qui a titré un article sur lui en disant « Le discours courageux de Glazer aux Oscars représente le meilleur du judaïsme ». Et personnellement, je parle rarement de ce sujet-là parce que je considère que les mots ont un poids. Les mots ont un sens. Et on vit à une époque, on vit dans une société, on vit à une époque où moi aussi, personnellement, régulièrement, je participe à peut-être dévaluer la valeur de certains mots qui avaient pourtant un sens particulièrement important. Faut faire gaffe à ce qu'on dit, surtout quand on accuse, surtout quand on critique, surtout quand on répond, surtout quand on n'est pas des putains d'experts en géopolitique. Ce que je suis pas non plus. Et personnellement, tout ce que j'ai vu, c'est un cinéaste brillant, faire un film brillant et avoir un discours dessus qui est parfaitement raccord avec le fond comme la forme de son long métrage. Son cinéma a parlé et maintenant les autres répondent. Et encore une fois, il y a un risque de voir énormément de mots perdre de leur valeur. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des films qu'il ne faut pas rater en salle cette semaine, mais nous, de notre côté, on va se faire un petit point sur le box-office. Alors, qui marche dans les salles françaises? Eh ben, les salles de cinéma françaises, c'est chaud. voilà, on va être très honnête tout de suite, je vais pas vous mentir, c'est chaud ce qui se passe. Globalement, c'est pas des scores de fou. En fait, j'ai le sentiment que les Français se retiennent d'aller au cinéma parce que il y a le printemps du cinéma qui arrive dimanche et qu'à partir de dimanche, la place sera à 5€. Et du coup, voyant que le printemps du cinéma se profile à l'horizon, il y a toutes les nouvelles sorties qui en pâtissent un petit peu. La plus grosse sortie de la semaine, c'est Heureux Gagnant, la comédie de Warner Bros avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy et plein d'autres gens, mais qui fait 117 000 entrées sur 441 copies. C'est très peu d'entrées par rapport à son nombre de copies. J'en parlais vendredi en disant que c'était un bon démarrage, mais j'ai le sentiment que ça reste à l'état de démarrage. Je veux dire, une fin de week-end comme ça avec autant de copies, on s'attend à bien plus. Et là, c'est pas dingue. Et ça, c'est le top 1. Alors, imaginez la suite. En deuxième position, c'est un peu la surprise de la semaine, c'est Il reste encore demain, la comédie italienne qui fait 117 000 entrées sur 172 copies, autant que Regagnant, mais elle a été aidée par des avant-premières. C'est vraiment la seule jolie surprise de la semaine, qui a une moyenne par copie qui est absolument excellente et qui, comme je le disais vendredi dernier, est très surprenant parce que les comédies italiennes, c'est pas non plus normalement des gros films à succès en France. Et après ces films-là, c'est un peu la galère. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a Scandaleusement Vôtre qui fait 43 000 entrées sur 198 copies. Voilà, direct, on passe à moins de 50 000 entrées à la fin du week-end. Non, mais c'est vraiment chaud, hein. La Nouvelle Femme fait 41 000 entrées sur 203 copies. Les Rois de la Piste, qui est une des plus grosses plantades de cette semaine, fait 33 000 entrées sur 311 copies. C'est une des plus mauvaises moyennes par copie de la semaine. C'est vraiment désastreux pour une nouvelle sortie. Dans la peau de Blanche Welbeck avec Michel Welbeck et Blanche Gardin fait 10 000 entrées sur 100 copies. C'est l'enfer. Et deux autres films que je vous avais chroniqués dans l'émission de vendredi, à savoir The Sweet East et Tiger Stripes, ne relèvent pas le niveau. The Sweet East fait 8 000 entrées sur 28 copies et Tiger Stripes fait 2 000 entrées sur 31 copies. Voilà, c'est chaud. Je veux dire, même niveau film événement, là, ils ont ressorti pendant deux jours Final Fantasy VII Advent Children et ça a été une plantade. Le film a fait 7 000 entrées sur 203 copies. Donc, c'est vraiment très peu. Le truc, c'est qu'au global, tout baisse. C'est pas juste les nouvelles sorties, c'est-à-dire même les anciennes sorties perdent énormément de spectateurs. Dune 2 fait moins 45%, alors il atteint les 2,8 millions d'entrées, il va dépasser le 1 sans problème, mais il a perdu la moitié de ses spectateurs en une semaine. Une Vie avec Anthony Hopkins fait moins 30% et atteint les 1,1 million. Et à côté de ça, vous regardez les autres pourcentages, mais c'est les enfers. Maison de Retraite 2 fait moins 42%, Boléro fait moins 50%, Bob Marley One Love et 14 jours pour aller mieux font moins 56%, et la comédie Chien et Chat fait moins 73%. Alors je sais que les films ont moins de salles du coup, mais quand même, non, c'est chaud. Alors pour rehausser le niveau, on attend la sortie de Kung Fu Panda 4. On me dit dans l'oreillette qu'il a surperformé dans ses avant-premières en France. On attend de voir un petit peu ce que ça va donner. Et il faut savoir que du côté des US, Kung Fu Panda 4 est déjà sorti et qu'il est le top 1 de cette semaine. Il a déjà réalisé 177 millions de dollars à l'international, dont 107 millions en Amérique. Il a déjà rapporté plus du double de son budget. C'est énorme comme démarrage pour Kung Fu Panda 4. C'est fou que le 4e volet de cette licence continue à amener encore autant de gens en salle. De son côté, Dune 2 touche du doigt les 500 millions à l'international, c'est très joli, bravo. Et de son côté, les US ont eu droit à une sortie exclusive qui marche plutôt pas mal, qui s'appelle Arthur the King, qui n'a rien à voir avec Arthur, le roi Arthur, mais c'est un film avec Mark Wahlberg et son chien. Et il a fait 7 millions de dollars sur le territoire américain. Vive les dogos. On verra la semaine prochaine si avec le printemps du cinéma qui démarre, on aura peut-être un peu plus d'entrée, un peu plus de joie dans le cœur des exploitants de salles de cinéma. Peut-être, on pense à vous très très fort, et sur ce, on avance.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Vous avez une question sur l'actualité ?» C'est de pire en pire le moment où j'explique cette séquence. « Vous avez une question sur l'actualité ?» Et les gens, ils disent « Oui !» Ils m'envoient des trucs en story. Bref, je sélectionne une question et elle passe dans l'émission. Suivez-moi sur Instagram, ce sera beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, la question nous vient des chroniques d'une Nantaise qui demande « La baston pour le budget de la culture au ministère, c'est positif pour le cinéma ou juste du bruit pour rien ?» Positif, je sais pas. En tout cas, c'est beaucoup de bruit. Pour remettre en contexte, il y a quelques semaines, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé que il fallait trouver 10 milliards. Voilà, il a dit, on va couper partout, on va réduire les budgets, faut trouver 10 milliards. C'est sa spécialité à Bruno, de toute façon. Dès qu'on trouve de l'argent, on n'en a pas assez trouvé, faut encore couper, faut recouper partout. Et lui, pendant ce temps qu'on coupe, il écrit des romans de cul absolument nuls. Je sais, tout le monde est au courant. Et pour ceux qui sont pas au courant, c'est pas une blague. Je vous cite un passage du dernier livre de Bruno Le Maire, qui s'appelle Fugue américaine. Je le cite. Elle me tournait le dos. Elle se jetait sur le lit. Elle me montrait le renflement brun de son anus. « Tu viens ? Je suis dilaté comme jamais. » Oui, je sais que tout le monde est au courant, mais j'adore citer des romans de ministres ou d'anciens ministres nuls. Vous voulez qu'on relise les bouquins de Marlène Schiappa ? Oh, ça, c'était rigolo. Bref, Bruno a annoncé qu'il fallait couper partout, sauf dans son bouquin, et du coup, il a dit qu'il allait couper dans le budget du ministère de la Culture, en lui retirant 200 millions d'euros, dont 96 millions associés à la création. Globalement, si vous vous demandez où est-ce qu'il a tapé des sous, il a surtout tapé dans les services publics. Voilà, c'est la mission de Bruno Le Maire, c'est casser les services publics, réduire les budgets des services publics qui sont déjà en détresse à plein de niveaux, mais c'est là qu'on prend l'argent parce qu'on en donne trop. On dépense un pognon de dingue. Vous rendez compte ? Et si on parle juste du sujet de la culture, bah oui, évidemment que ça a des répercussions. Ça a des répercussions sur les emplois, ça a des répercussions sur les créations à venir, ça a des répercussions sur les écoles, ça a des répercussions partout. Et pour vous dire à quel point c'est désastreux, la ministre de la Culture actuelle, Rachida Dati, je sais c'est toujours bizarre de le dire, mais c'est le cas, elle est assez mécontente. D'après Le Monde, alors qui est pas n'importe quelle source, en plus Le Monde, Rachida aurait envoyé au ministre de l'économie Bruno Le Maire un message contenant « Tu es une grosse merde ». J'en viens vraiment à commenter ce genre de truc, c'est génial. Bon, c'est un message qu'elle a démenti, mais c'est pas la première fois qu'on parle des SMS assez envolés de Rachida Dati. Et d'ailleurs, il y en a un autre dans la boucle. Parce que dans la même colère, elle aurait adressé au Premier ministre Gabriel Attal un SMS avec marqué, alors je cite le SMS, « Je vais transformer ton chien en kebab ». Putain ! Que commenter là-dessus ? Déjà, Rachida, elle se laisse pas faire. Voilà, c'est déjà ça. Après, est-ce que c'est pour soutenir des projets culturels pertinents ? Ça se discute. Ses derniers faits d'armes, c'est d'avoir tapé sur les wokistes qui réécrivent des bouquins. Bon, ça, à la limite, vous savez ce que je pense des réécritures historiques, mais tu sais très bien pourquoi elle dit ça et quel agenda politique ça sert. Et derrière, elle a annoncé qu'elle envisageait fermer une dizaine d'écoles d'art en France, là où la ministre de la Culture précédente, Rima Abdulmalak, leur avait accordé un budget d'urgence afin qu'elle puisse survivre. Voilà. Encore une fois, je le disais quand elle a été annoncée ministre, j'ai pas changé d'avis là-dessus, elle est marrante, Rachida Dati. Elle a des grosses punchlines, elle gueule fort, forcément, elle est toujours un peu rigolote. Mais à la fin, derrière les phrases où on a bien rigolé, elle mène une politique de droite qui se veut assez assassine envers la culture. Et c'est pas pour critiquer, c'est pas pour être violent pour rien que je dis ça, non, c'est littéralement ses actes qui le prouvent. Si elle veut continuer à faire des phrases rigolotes et à se battre pour obtenir plus de budget pour la culture, mais grand bien lui fasse, et tant mieux, hein. De toute manière, la culture, c'est souvent là où on coupe plutôt que de s'attaquer à un bon paquet de niches fiscales. Mais après, faut voir le projet de la ministre. Et le projet actuel, il sent pas bon. Voilà.
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un long métrage que j'ai apprécié ou non. Et dans la prochaine émission, vous pouvez passer dans l'émission. Oui, le vendredi, c'est vous. C'est toi, là, derrière ton écran, derrière tes écouteurs qui peut passer. Pour ça, il te suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Le lien est en description si t'as pas eu le temps de noter. Tu parles d'un film récent ou non, tu parles de ce que tu veux, d'un truc qui t'a plu, d'un truc qui t'a déplu. Et j'écoute les audios et à la fin, j'en sélectionne un et il passe dans l'émission. Du coup, hésite pas à en envoyer. Et aujourd'hui, de mon côté, on va parler cinéma de vampires qui tâchent, qui fait rire et qui en même temps émeut beaucoup, on va parler de vampires humanistes.
Mais goûts, ça se développe souvent, tu vas finir par aimer ça.
J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça.
T'es-tu peut-être pas Sacha, mais t'es mange pareil.
Vous aurez remarqué que je dis tout le temps vampire humaniste, que je cite pas le titre en entier. Ouais, parce qu'il y a un mot dans le titre, le bot YouTube, il l'aime pas trop. Donc, j'évite. Voilà. C'est un comble que j'ai pas vu ce film plus tôt. Vraiment, c'est un comble. C'est-à-dire, il est sorti au Québec en octobre et je me suis dit, oh, je le verrai plus tard. J'ai attendu, putain, que la sortie française débarque pour le voir. Mais quelle erreur. Parce que c'est super, vampire humaniste. Vraiment, c'est super. Déjà, faudrait toucher un mot sur l'industrie cinématographique du Québec. Non, parce que je parle très souvent de films pris en solo, mais je parle pas de son système comme un ensemble. On produit peu de films par an au Québec. Alors, comparativement à sa population, on en produit pas mal, mais c'est-à-dire que par an, on produit au Québec en moyenne entre 20 et 30 films, alors qu'en comparaison en France, on produit par an entre 85 et 125 films. Voilà, pour vous donner un petit peu la diff. Et donc, il y a peu de place dans le cinéma québécois. Des places qui sont évidemment dominées par des comédies et des drames. C'est évident, c'est ce qui marche le mieux. Et pourtant, malgré qu'il y ait peu de choix, il y a une vraie place qui est quand même laissée au cinéma de genre. Je veux dire, au cinéma thriller, au cinéma fantastique, au cinéma horrifique. Il y a un an, il y a eu un film de SF qui s'appelait Viking. En 2023, il y a eu Les Chambres Rouges, il y a eu Crépuscule pour un tueur. Puis là, en 2024, en à peine quelques mois, on a eu Le Successeur. On a eu Lucy Grizzly Sophie, dont je vous ai pas parlé, mais qui est un thriller aussi dans le monde du jeu vidéo. Donc oui, il y a des choses. Et c'est sans compter aussi tous les contenus qui sont publiés sur Club Illico, sur plein d'autres chaînes. Oui, il y a plein de trucs qui se produisent. Et là, paf, il y a un film de vampire. Mais alors, un vrai film de vampire, hein, un qui fait pas semblant, hein, qui se veut même assez violent. On y suit Sacha, une adolescente vampire de 68 ans, qui refuse de tuer pour se nourrir. Et du coup, sa famille est vraiment désespérée. Non, t'es une vampire, il faut que t'es d'en sorte, au bout d'un moment, il faut que tu bosses. Du coup, il l'envoie chez sa cousine, qui elle est beaucoup plus hardcore sur ce sujet, et qui va lui dire, t'inquiète pas ma fille, tu vas chasser. Et c'est là qu'elle va rencontrer Paul, un adolescent qui se fait harceler et qui veut en finir. Et en la rencontrant, il se dit, bah, quitte à en finir, autant l'aider un petit peu elle. Et c'est ainsi qu'ils vont passer une nuit ensemble et aller doucement mais sûrement vers la fin. La fin F-A-I-N, la fin F-A-I-M. Oui, jeu de mots. La figure du vampire, elle est pratique à plein d'égards parce que elle questionne le rapport à la mort, elle questionne le rapport au fait de survivre en détruisant l'autre, mais quand on l'applique au genre du film vampire humaniste, eh ben elle est aussi intéressante sur la question d'immortalité et du fait de rester jeune physiquement parlant. Et du coup, la réalisatrice décide de faire avec ce film un coming of age movie, qu'on peut traduire littéralement par un film du passage de la vie adolescente à la vie adulte, et elle a tout le terreau nécessaire pour faire ça. Et puis ça permet de faire des duos assez drôle aussi à plein d'instants sur le fait qu'une phrase que tu pourrais dire à une adolescente random, et ben là s'applique dans un contexte un peu différent à une adolescente vampire. Il y a tout le temps des parallèles qui jouent un petit peu là-dessus. Et puis même sur des situations, c'est-à-dire qu'on te fait la parodie de la scène habituelle de l'adolescente qui doit faire sa première fois, sauf que là sa première fois, bah c'est littéralement bouffer quelqu'un. L'idée de raconter en fait le passage d'une tranche d'âge à une autre sur des personnages qui physiquement ne changent pas, je trouve ça plutôt pertinent, je trouve ça intéressant et en plus ça en fait un sujet intemporel. Et le côté intemporel il est traité dans les décors aussi parce que je peux pas vous dire à quelle époque ça se déroule. C'est-à-dire qu'il y a une patine années 70 mais tu sens que c'est parce que les personnages ils ont bien aimé cette époque-là et qu'ils ont décoré comme ça. Mais dès que tu sors dans la ville, je n'ai aucune idée d'à quelle période se déroule ce film et j'aime bien parce que j'ai le sentiment que les personnages se réfugient eux aussi dans le passé. Et c'est aidé par une mise en scène que je trouve très soignée, le cadre est vivant, c'est ça qui me plaît. Il y a toujours quelque chose qui se passe au premier plan, au second plan, c'est bourré d'idées. Tu sens que la réalisatrice, elle vient de l'économie du court-métrage parce qu'elle est toujours dans cette idée de dispositif où il faut en une seule image faire ressentir beaucoup de choses, que beaucoup d'idées passent. Et du coup, le film est très vivant, il se passe énormément de choses dans le long-métrage et c'est très agréable, c'est très rythmé. Et ça se ressent aussi en plus dans l'écriture qui va continuellement modifier ses enjeux pour proposer de nouvelles choses. Dès que tu penses que le film va dans une direction, il va en fait ailleurs, toujours avec un certain côté joli, toujours en te troublant même sur le ton que le film va employer. Non, parce que je sais que dit comme ça, ouais, ça a l'air un petit peu plombant et tout, cette histoire de vampire, de passage. Mais vraiment, c'est plus qu'un teen movie, c'est plus qu'un What We Do in the Shadows, même si je vois le parallèle qui peut être dressé entre les deux. Il y a un côté humour noir, mais qui est vraiment aidé par un côté pince sans rire que j'aime beaucoup. C'est toujours drôle, mais toujours très à côté. C'est ça que j'aime bien, c'est que ça me donne toujours ce sentiment d'être quand même dans du cinéma fantastique, dans du cinéma hors du réel. Et au final, bah, c'est surtout un film qui est ultra touchant et qui parle d'une génération qui sait pas quoi faire et qui se perd, mais on se perd pour mieux se retrouver. Voilà. J'étais en apnée dans cet univers et quand le générique de fin s'est lancé, j'ai été submergé par l'émotion et j'ai versé quelques larmes parce que j'ai eu ce truc de « Oh, quel bonheur !» Quelle joie d'avoir vécu ce film. Qui dit film québécois dit qu'il va pas être énormément distribué. Hein. J'avais vérifié, je crois qu'il passe dans moins de 100 salles. Mais vraiment, je vous encourage à trouver une salle qui le passe et à aller le découvrir sur grand écran. Faut soutenir le cinéma de genre, faut soutenir le cinéma québécois, faut soutenir les premiers films. Et là, c'est les trois. Et en plus, c'est extrêmement réussi. Ce serait quand même super con de passer à côté. Vous auriez tort de vous priver. Vraiment, je vous assure, Vampire Humaniste, c'est un putain de coup de cœur.
C'est la première fois que je veux vraiment quelque chose.
Je pensais que les humains avaient vraiment peur de la mort.
C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien chez vous et que tout se passe bien auprès de vous, auprès de vos proches et tout ce qui s'ensuit. J'espère que vous regardez des films. J'espère que la sortie de cette émission en format vidéo à midi n'a pas trop perturbé certains. Les commentaires étaient très mécontents, mais je fais des tests. C'est pour le bien de l'émission. Ça se trouve, on se rendra compte lundi que c'était pourri. Ça se trouve, on se rendra compte lundi que j'avais raison. On verra bien. On se retrouve pour l'instant vendredi. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.